Donc, on a reçu un appel de Yum Yum, la compagnie de chips, qui nous disait qu'il y avait beaucoup de retailles de patates. Donc, on était comme, qu'est-ce qu'on peut faire avec des retailles de patates? On a exploré différents projets, on a transformé en gin. Donc, c'est toujours des projets qui partent de quelque chose qui est jeté en grande quantité. On nous appelle, puis nous, avec ça, on crée un produit.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 115e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. L'économie circulaire, c'est un thème à la mode en 2021 et c'est surtout une très belle vision à avoir quand on désire bâtir une entreprise. Imaginez, vous construisez une organisation qui ultimement ne fait qu'utiliser les surplus de ses fournisseurs pour concevoir ses produits. Ça peut paraître trop beau pour être vrai, certes, mais croyez-moi, ça existe. Et en plus d'exister, ces entreprises sont présentement en forte croissance. Julie Poitras-Saulnier, présidente et cofondatrice de Loop Mission, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'histoire incroyable que elle et son conjoint vivent depuis 2016. Avec une envie de construire une entreprise verte et en croissance, l'équipe de Loop s'efforce depuis 5 ans maintenant à utiliser les surplus alimentaires des restaurants et supermarchés afin de créer des jus, des soupes, des bières qui deviennent des biens de consommation grandement populaires. Sans plus attendre, ma discussion avec Julie Poitras-Saulnier. Julie Poitras-Saulnier, vous êtes la présidente et cofondatrice de l'entreprise Loop Mission, une organisation qui a un objectif en tête, mettre fin au gaspillage alimentaire. Vous arrivez d'ailleurs à accomplir cette cause en redonnant de la valeur aux aliments rejetés en les transformant en produits extraordinaires. Lancée en 2016, votre entreprise compte maintenant plus de 50 collaborateurs dans ses rangs et a officialisé l'été dernier le lancement d'une nouvelle usine de production à Boisbriand. Julie Poitras-Saulnier, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci, ça me fait plaisir, vraiment.
Et Julie, en faisant mes recherches, j'ai cru constater que la fondation de Loop Mission provient d'abord et avant tout d'un désir commun que ton conjoint et toi, qui est également ton associé David Côté, vous partagez depuis 2016. Peux-tu nous expliquer aujourd'hui comment s'est déroulée la fondation de Loop il y a maintenant 5 ans?
Oui, ben ça a vraiment commencé. David et moi, on s'est rencontrés dans une grande roue, d'ailleurs, très romantique. Puis le projet s'appelle Loop. On s'est rencontrés dans une grande roue, puis on est resté là pendant 4 heures et on s'est dit, faut qu'on parte une entreprise ensemble. On est trop similaires. On était vraiment là, on était emballés, mais on savait pas encore quelle entreprise. Moi, j'étais dans un moment de ma vie où j'étais spécialiste marketing en développement durable déjà. J'ai une maîtrise en sciences environnement, développement durable. Donc c'était déjà mon dada puis mon rêve de créer une entreprise où plus on vendait d'un produit, plus on avait un impact positif sur le monde. Et moi, j'étais déjà une passionnée d'alimentaire, donc je savais que je voulais partir d'une entreprise en alimentaire. Et David, lui, avait déjà comme 2 entreprises à son actif. Là, il a cofondé Cru d'essence et Rice Kombucha. Et là, on s'est assis ensemble, on a commencé à regarder les projets qu'on pouvait faire. Et au même moment, on a reçu un appel de Frédéric Monette, qui est le vice-président des opérations chez Courchain-Larose, qui est le plus grand distributeur de fruits et légumes au Canada. Et il nous a dit, moi, je jette 16 à 20 tonnes de fruits et légumes au Canada. Il nous a dit, est-ce que vous pourriez m'aider à faire quelque chose avec ça? Et pour nous, ça a été l'élément déclencheur. C'est là où vraiment, moi, j'ai décidé de tout quitter. Parce que j'ai toujours voulu me lancer en affaires, mais j'avais très peur des risques. On me parlait toujours des risques de se lancer en affaires. Donc, ça a été le moment où j'ai quitté mon emploi, j'ai vendu ma maison, David a vendu son restaurant, on s'est lancé à temps plein dans le projet. Puis c'était tellement une mission qui était forte pour nous parce qu'on voulait trouver une façon de revaloriser ou de donner une deuxième vie à ces aliments-là que j'ai plus jamais repensé au risque.
C'est tellement intéressant ce que vous disiez dans certains entretiens. Il y a de la valeur dans la perte. Hein? Il y a de la valeur dans la perte, c'est un terme que vous avez utilisé dans certains entretiens. Je trouvais ça fascinant parce que votre modèle d'affaires est basé sur des pertes alimentaires et les entreprises vont faire des pertes alimentaires, c'est inévitable. C'est important également de mentionner à l'audience aujourd'hui qu'il y a des coûts, en plus d'avoir des pertes, il y a des coûts dans le secteur alimentaire reliés aux matières jetées dans les sites d'enfouissement. Julie, peux-tu nous expliquer aujourd'hui comment fonctionne ce fameux modèle d'affaires-là? Et vous utilisez également le terme « un cycle vertueux », si je me fie à vous dire. Donc, peux-tu donner un petit peu de contexte aujourd'hui à l'audience sur
comment votre modèle fonctionne et pourquoi vous êtes capable de créer ce que vous appelez un cycle vertueux.
Ouais, parce que c'est sûr que les entreprises qui ont des aliments en surplus ou qui jettent des aliments, qui les envoient aussi d'enfouissement au compost ou en biométhanisation, ça coûte extrêmement cher. Puis c'est un peu inévitable là, d'avoir des pertes parce que c'est un peu comme avoir un restaurant. Ça prend un ce qu'on appelle un buffer, là, dans le fond. Ça prend un petit surplus, un extra sur chacun des aliments pour être sûr qu'à la fin de la semaine, si quelqu'un vient à ton restaurant, peu importe qu'il ait fait beau ou de la pluie, qu'il ait vendu beaucoup de salade ou de soupe, t'as assez de tout sur le menu à la fin de la semaine. Ben, c'est la même chose quand t'es un grand distributeur puis que tu transiges énormément d'aliments à ton centre de distribution, tu dois avoir un petit surplus puis ce surplus-là représente des tonnes par jour. Et nous, pour nous, le modèle, il fonctionne parce que justement, on crée de la valeur pour ces entreprises-là à partir de leurs pertes. Donc, eux devaient payer pour se départir de ces aliments-là. Puis nous, on insiste pour les acheter. Puis ça fait vraiment partie intégrante de notre modèle. C'est que même souvent, on se fait appeler par des gens qui jettent des aliments qui veulent qu'on les prenne, ils nous les donnent gratuitement. Et nous, on insiste pour les payer. C'est vraiment important pour nous parce qu'on veut montrer à l'industrie qu'il y a de la valeur dans ces aliments-là, que c'est pas un déchet, qu'il y a vraiment de la valeur économique. Puis on veut inculquer cette mentalité-là. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit maintenant des appels de plein de transformateurs alimentaires, distributeurs, détaillants qui nous disent qu'ils jettent des aliments ou qu'ils ont des aliments en surplus. Nous, on les achète, on les transforme en jus pressé à froid, en smoothie, maintenant en d'autres types de produits aussi. Donc, on les retransforme puis on les revend. Donc, produits de qualité, on les revend aussi à un prix plus abordable que des produits similaires sur le marché. Donc, c'est vraiment un modèle où tout le monde gagne. Donc, le consommateur a un produit de qualité à un coût plus abordable. Les distributeurs ou les partenaires avec qui on travaille vont transformer une perte en profit. Donc, c'est vraiment, c'est de faire dans le fond, créer de la valeur pour tous. C'est un peu ça notre vision.
Puis, c'est ça, de faire un impact qui est fort pour la planète. Et c'est intéressant que tu as mentionné avec, que vous le faites avec d'autres produits maintenant, parce que beaucoup de gens vont vous connaître pour vos jus, comme tu l'as mentionné. Mais là, maintenant, ça l'a évolué. Vous êtes même décrit comme une entreprise qui ne fait pas que des jus. Vous avez des gins maintenant, vous avez des soupes, je crois bien. Peux-tu nous expliquer un petit peu quelles ont été les raisons derrière l'évolution de votre gamme de produits, derrière la création de ces nouveaux produits-là que vous allez mettre en marché?
Ouais, ben quand on a parti le projet, c'était vraiment, on s'appelait Juloop, ça c'était le nom de notre entreprise, puis on créait des jus de fruits et légumes à partir des fruits et légumes déclassés, donc ceux qu'on appelle parfaitement imparfaits. Et pour boucler la boucle, notre propre rejet de production à nous, qui est toute la fibre résiduelle issue de la fabrication de nos jus, on la réutilisait pour faire des gâteries pour chiens, maintenant de la croûte à pizza aussi. Donc c'était vraiment, c'était juste ça le modèle. Et on a reçu tellement d'appels de gens de l'industrie alimentaire, c'est complètement fou. Tout le monde a commencé à nous appeler, on a réalisé qu'il y avait vraiment un manque sur le marché. Il n'y avait pas de joueurs qui était un intermédiaire qui était entre les générateurs de matière et les transformateurs pour vraiment les transformer. Puis on a eu tellement d'appels qu'on a décidé de plus être Juloop, mais devenir Loop Mission et vraiment de développer des produits dans plein de catégories d'épicerie. Nous, notre but, c'est pas, on part jamais d'un produit qu'on veut lancer, on part toujours d'un problème à résoudre. Donc, on reçoit un appel d'une grande boulangerie qui jette énormément de pain. Ben nous, on fabrique de la bière avec ça, par exemple. Donc, on a reçu un appel de Yum Yum, la compagnie de chips, qui nous disait qu'il y avait beaucoup de retailles de patates. Donc, on était comme, qu'est-ce qu'on peut faire avec des retailles de patates? On a exploré différents projets, on a transformé en gin. Donc, c'est toujours des projets qui partent de quelque chose qui est jeté en grande quantité. On nous appelle, puis nous, avec ça, on crée un produit.
Puis, vous avez eu beaucoup de croissance, là. Je pense que je lisais dans un entretien récemment, vous avez fait 116% de votre croissance dans la dernière année. Donc, clairement, il y a un engouement autant au niveau des gens qui ont des surplus alimentaires que vous pouvez acheter que les gens qui vont acheter vos produits à la fin de la journée. Moi, je serais curieux de t'entendre. À quoi attribues-tu cette croissance-là? Est-ce qu'il y a eu des efforts, des initiatives marketing spécifiques? Est-ce que tu crois que seule la cause en soi est assez forte pour faire en sorte que le brand soit capable d'être déployé très rapidement partout à travers le Québec et d'autres endroits par la suite?
Oui, je pense que c'est vraiment quand tu vends plus qu'un produit, tu vends une mission, par le fait même, tu vends plus de ton produit d'une certaine façon parce que on vend une cause aussi. On a quelque chose qui est plus grand qu'un désir personnel. Donc, c'est sûr que c'est un modèle qui, d'une part, fait en sorte qu'il n'y a pas de compromis à faire pour le consommateur. Donc, c'est un modèle, tu sais, souvent quand on entend parler de produits plus éco-responsables, on a l'impression que en tant que consommateur, il faut faire un petit sacrifice. Soit ça va coûter plus cher, ça va être un peu moins efficace, ou ça a un look un peu grano. On a comme ce réflexe-là. Je pense que quand ça a commencé, c'était un peu ça. On a ce réflexe-là qu'il faut avoir un compromis. Mais avec ce modèle-là, il n'y a pas de compromis. Donc, on a fait un produit qui, premièrement, on a accès à des fruits et légumes de super qualité qui coûtent vraiment cher, que normalement, une entreprise qui achète ces produits-là à plein prix n'aurait pas accès. Donc, premièrement, au niveau du profil de saveur, on se démarque énormément de tout ce qu'il y a de similaire sur le marché. On a fait des produits vraiment en qualité, clean label, puis tout ça à un prix plus compétitif dans sa catégorie. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui, oui, ça plaît aux consommateurs, mais en plus, si ce matin, tu es allé dans un coffee shop puis tu as trouvé un jus qui était super bon, qui remplissait ton besoin personnel de pas coûter trop cher, d'être attrayant, de, tu sais, sans compromis vraiment pour ton besoin en tant que consommateur personnel, tu vas sûrement le réacheter. Mais si en plus, il y a une mission plus grande, ça te connecte à quelque chose, c'est une mission sociale, environnementale qui te connecte à la communauté puis à la vie en général, ben à ce moment-là, non seulement tu vas le réacheter, mais tu vas probablement en parler avec tes collègues sur l'heure du lunch, le poster sur tes réseaux sociaux. Donc, le marketing chez nous, c'est fait vraiment de façon très, je dirais, organique parce que nous, même tout le monde nous appelait au début pour nous demander c'était qui notre agence de relations publiques. On n'a pas dépensé un seul dollar en marketing là, pendant au moins 2-3 ans parce que justement, tu sais, c'était beaucoup du bouche à oreille. C'était le fait qu'on avait cette mission-là qui était tellement forte puis qui était tellement au cœur de ce qu'on faisait que les gens ont commencé à nous appeler pour parler de nous. Puis ça a été que récemment qu'on a commencé à investir un peu en marketing, mais c'est quelque chose de très nouveau. Puis je pense que c'est le fait d'avoir une mission, ça aide définitivement.
Bien sûr. Ah ben, faut vous bâtissez vraiment une marque à la fin de la journée. Je pense que c'est ce qui vous distingue, c'est que les gens sont capables de comprendre très rapidement ce que vous êtes capable d'offrir. En tant que produit. Maintenant, je serais curieux de t'entendre là-dessus. Donc, bien entendu, vous avez une cause, mais à la fin de la journée, on doit avoir des produits qui sont de qualité. Moi, j'ai personnellement déjà goûté à vos jus que j'aime beaucoup. Je tiens à le dire à l'audience aujourd'hui. Mais là, par la suite, c'est pas facile d'aller s'attaquer à des verticales comme le gin, des verticales, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, je pense qu'il y a de la nourriture pour chien que tu as mentionné. Il y a plusieurs endroits comme ça que vous attaquez. Comment faites-vous pour arriver à offrir un produit de qualité qui peut avoir un avantage compétitif dans autant de catégories?
C'est la force des partenariats. Vraiment, là, pour nous, c'est okay. Ça aussi l'économie circulaire. Notre modèle est basé sur la force des partenariats. C'est en s'associant avec d'autres joueurs, d'autres entreprises qu'on réussit vraiment à créer ça. Par exemple, nous, quand on a lancé la bière, on savait qu'on n'avait pas l'expertise pour brasser de la bière parce que nous, on fabriquait du jus. T'sais, le jus, c'est un peu, c'est là où on a nos opérations, c'est notre usine, mais tous les autres produits, on les fait avec des partenaires externes. Donc, la bière, on n'avait pas l'expertise pour développer des recettes de bière, mais commercialiser de la bière. C'était vraiment un autre créneau complètement. Donc, on s'est associé avec le collectif Brassicole Ensemble, qui est un collectif brassicole qui a déjà cette expertise-là. Donc, eux sont spécialistes là-dedans. Donc, on le fait conjointement avec eux. C'est eux qui fabriquent la bière pour nous. On fait vraiment même chose pour le gin. On travaille avec la distillerie Mariana. Donc, on a vraiment été voir c'est qui les meilleurs qui ont des valeurs similaires à nous, qu'on veut grandir ensemble, puis on développe les projets ensemble. Donc, nous, on s'occupe d'idéaliser c'est quoi qu'on veut comme type de produit, on veut le profil de saveur du produit, et eux nous aident vraiment à le concrétiser, à faire la recherche et développement avec nous, puis ils vendent le produit pour nous. Donc, c'est un modèle pour nous qui est vraiment gagnant pour tous, puis c'est sûr que Loop, sans tous ces partenaires-là, on pourrait pas y arriver.
Donc, vous, à la fin de la journée, vous allez chercher les aliments avec, on va dire, les fournisseurs ici. Eux vont créer le produit, puis par la suite, ben, il va avoir un mix de travail au niveau de la distribution, j'imagine.
Exactement. Mais c'est sûr qu'ils nous aident encore plus au niveau de la distribution parce que, justement, quand eux, ils ont déjà l'expertise aussi au niveau de la distribution, donc ils vont collaborer là-dessus. Nous, on va faire tout ce qui est marketing du produit, on va faire l'image de marque, le profil de saveur. Donc, on a vraiment chacun nos rôles et responsabilités, puis c'est comme ça qu'on arrive ensemble à créer un beau succès.
Puis, bon, là, présentement, vous êtes bien connu au Québec. Vous avez fait des initiatives également à l'œil du dragon, mais également à Dragon's Den, c'est important de le dire. Est-ce qu'il y a une stratégie de pénétration qui est différente pour le reste du Canada, peut-être même ultimement pour le sud de la frontière? Ça ressemble à quoi un petit peu cette expansion-là chez Loop?
Ben nous, maintenant, on est distribué nationalement, donc partout à travers le Canada. C'est sûr qu'au Québec, je disais tantôt, ça a été assez organique quand on a lancé le produit. Tu sais, ça a été vraiment, on a eu un bel engouement des médias ici. Là où on doit investir, tu sais, je dis que ça fait quelques années seulement qu'on investit en marketing, on le voit pour le Canada anglais, justement, parce que on n'a pas eu la même traction au départ qu'on l'a eu ici. Donc, ça a été plus difficile de commencer à faire attirer l'attention. Maintenant, ça fonctionne super bien, mais c'est sûr qu'on doit être plus actif. Donc, on doit quand même, parce que c'est sûr que on n'est pas une entreprise locale, c'est plus dépendant. Là, on est une entreprise canadienne, mais par exemple, en Toronto, ils vont pas nécessairement considérer que c'est local ou en Colombie-Britannique non plus. Donc, c'est ça qu'on doit investir. investir un petit peu plus. Puis on est en ce moment en train de commencer l'exportation aux États-Unis. Donc, on réalise aussi que c'est sûr qu'on doit, mais la mission aide à faire propager le message, mais on doit quand même y donner un petit coup de pouce qu'on n'avait pas nécessairement à faire ici. Donc ça, c'est les prochaines étapes, là, c'est de continuer à faire rayonner la marque puis faire connaître la mission ailleurs.
Puis, je lisais un petit peu plus tôt en introduction, Julie, t'as fondé l'entreprise avec ton conjoint. Et je suis toujours intéressé à savoir un petit peu la dynamique entre certains actionnaires. Donc, des fois, des gens que je vais interviewer sur le podcast vont me dire, ben moi, c'est excessivement clair, je fais ces tâches-là, les tâches opérationnelles dans l'entreprise, et mon partenaire va faire le développement des affaires, va faire la création de produits. Bref, des fois, il y a des actionnaires qui ont des tâches qui sont très complémentaires et des fois, certains d'entre eux vont se marcher un petit peu plus sur les pieds. Je serais curieux de savoir quelle est la dynamique chez Loop présentement. Qui fait quoi? Comment ça se déroule tout ça?
Nous, c'est très, très clair. On est extrêmement différents et complémentaires, David et moi. Donc, on a vraiment chacun nos forces et nos faiblesses. Puis, ce qui adonne très bien, c'est que mes faiblesses, c'est ses forces. Puis, ses faiblesses, c'est mes forces. Donc, ça, c'est vraiment génial. Moi, je m'occupe de tout ce qui est très administratif. Donc, finance, administration, légal, marketing aussi, innovation. Innovation, c'est comme la seule branche qu'on touche les deux, David et moi, on est parce que justement, ça vient tellement nous chercher, ça part de la mission. Donc ça, c'est vraiment la portion qu'on, toutes les deux, on travaille un peu sur l'innovation, le développement des nouveaux produits. David, lui, est très vente, opération. Tu sais, moi, je suis un peu plus réservée, je suis moins bonne à faire des rencontres de vente. Donc ça, c'est vraiment la partie à David. Puis la gestion de l'usine, là, ouais, c'est ça, les opérations. Moi, c'est un peu moins mon dada, là, mettre mon filet à cheveux puis mon sarreau, là, puis aller dans une usine réfrigérée. Je suis très bonne derrière mon ordinateur.
Fait que c'est clair ici, personne ne se marche sur les pieds, là.
Non, c'est vraiment clair. C'est comme instinctif. Dès qu'il arrive un projet, c'est vraiment naturel de dire, OK, ça, c'est David, ça, c'est moi.
Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissements publicitaires Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours.
Puis présentement, bon, tu l'as dit, il y a eu un partenaire qui s'est intégré au départ de l'aventure. Est-ce que présentement, c'est toujours ces trois partenaires-là qui sont autour de la table ou à cause des derniers investissements que vous avez faits? D'ailleurs, on va en parler de l'usine à Boisbriand. Est-ce que ça l'a changé? Est-ce que d'autres personnes qui sont rendues dans le décor maintenant?
Non, on a décidé de faire notre ronde d'investissement à l'interne finalement, donc il n'y a pas de nouveaux partenaires dans l'entreprise. On a hésité longtemps, on est allé sur le marché, mais on s'est rendu compte que, premièrement, on est tellement une belle dynamique, on est vraiment là, c'est le rêve, on est des associés incroyables, puis la dynamique est tellement bonne qu'on voulait pas amener d'autres personnes, puis on avait vraiment peur de changer ça jusqu'à maintenant. Comme on dit, on change pas une formule gagnante, ça allait bien, donc on le fait à l'interne.
Bon, 10 millions de dollars, c'est l'investissement que vous avez fait sur votre nouvelle usine à Boisbriand. Quelle a été la réflexion derrière ça? J'imagine que, un, ça devait plus être assez gros ce que vous faisiez, vos différents produits. Mais qu'est-ce qui vous a fait choisir Boisbriand? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce développement-là, de ce travail qui, je crois, l'usine a été officialisée cet été, là?
On n'a pas encore emménagé officiellement. Là, on est en train de finaliser les améliorations locatives. En fait, tout est en grand délai avec la pandémie sur tous les matériaux de construction. Donc, ça a été un petit peu plus long que prévu. Mais on a choisi Boisbriand pas consciemment. On a regardé beaucoup de différentes usines de transformation alimentaire dans l'Est, sur la Rive-Nord particulièrement. Puis finalement, ben, on a trouvé Boisbriand. Mais pour nous, on avait vraiment besoin de déménager nos opérations parce que on n'avait plus une assez grande capacité pour subvenir à tous nos besoins. En ce moment, c'est les opérations qui freinent les ventes parce qu'on a des super opportunités, des clients qui veulent nos produits. Même, on a eu nos premières commandes pour les États-Unis. Puis on n'avait pas assez de capacité de production à l'usine actuelle pour pouvoir toutes les remplir. Donc, c'est un beau problème, mais en même temps, on n'avait plus le choix. Là, on avait vraiment besoin de quelque chose de plus grand, mais aussi saisir plus d'opportunités de sauvetage d'aliments. Donc, ça peut arriver qu'on a une très belle opportunité d'avoir 50 palettes de raisins d'un coup. Il faut être capable de les transformer rapidement pour justement pour saisir plus d'opportunités encore justement d'aliments qui peuvent être sauvés. Donc, tout ça, ça rentrait dans cette optique-là.
Je serais curieux avant de te poser des questions personnelles, Julie. Tu as travaillé pendant quelques années chez une marque qui est formidable. J'ai d'ailleurs reçu Marie-Josée Richer récemment sur le podcast Prana. Je serais curieux de voir à quel point cette vision-là, cette approche-là que Marie-Josée a avec Prana, ça t'a aidé, ça t'a donné peut-être un élan sur le projet que tu voulais lancer avec Loop Mission.
Ben moi, le passage que j'ai fait chez Prana, ça m'a beaucoup inspirée parce que, ça m'a beaucoup montré c'était quoi finalement une PME ou partir une entreprise parce que j'étais dans des postes auparavant. Tu sais, moi, j'avais été spécialiste de développement durable chez Keurig Canada où là, juste dans le département marketing, on était 45. Donc, on a vraiment une vision très étroite ou très restreinte de c'est quoi notre carré de sable. Tu sais, on a vraiment voici ton carré de sable, puis il faut que tu joues là-dedans. Puis moi, je comprenais pas nécessairement, tu sais, le big picture, si on peut dire. Tu sais, je comprenais pas le rôle entre les opérations, les ventes, le marketing, l'administration. Tu sais, j'avais pas une vision claire d'une entreprise, ça fonctionne comment. Fait que quand j'ai été chez Prana, là où j'ai fait des projets d'innovation un peu là-bas, j'ai fait des projets de développement durable, de marketing, c'était vraiment, j'avais un rôle un peu où je devais te parler avec tous les départements, puis veux pas dans une PME, t'es vraiment toujours en collaboration avec tout le monde. Ouais. Ça m'a permis de comprendre finalement comment ça fonctionnait une entreprise, c'était quoi les différents départements, puis ça a été vraiment, vraiment une super école. Puis c'est sûr que Marie-Josée puis Alan, c'est deux leaders vraiment inspirants aussi. D'ailleurs, on est toujours en contact, là, on est restés amis parce que justement, c'est des gens incroyables puis ils m'ont beaucoup inspiré. Fait que ouais, ça a été c'est directement après Prana que j'ai décidé de partir l'eau parce que justement, c'était tellement, j'ai compris finalement que j'étais capable moi aussi de faire ça parce que j'ai compris le big picture pour la première fois.
Puis, est-ce que les mentors t'ont aidé un petit peu dans ta carrière entrepreneuriale? C'est toujours intéressant d'en savoir un petit peu plus. Des fois, des gens nous disent qu'ils ont quelqu'un qui les suit depuis un certain temps maintenant, qui les a aidés à arriver où ils sont aujourd'hui. Est-ce que toi, de ton côté, ça a été le cas ou pas tellement?
Non, moi, j'ai pas pris de mentor. On dirait que j'ai jamais vraiment eu le temps de faire des rencontres avec des mentors parce que ça a tout le temps déboulé tellement vite. Et on dirait que, alors que, tu sais, quand j'ai parti le projet, je disais que j'avais pas nécessairement confiance en moi. J'étais comme, OK, je peux pas gérer l'entreprise. Je peux pas être la présidente d'une entreprise. Je sais pas, tu sais, comment ça fonctionne. Puis ça a été tellement instinctif. Je me suis un peu, je me suis surprise. Je me suis épatée dans tout ça parce que j'ai réalisé que finalement, je savais vraiment comment prendre les bonnes décisions. Puis c'était tellement instinctif que j'ai pas nécessairement eu besoin d'aller chercher de l'aide externe. Puis il faut dire que c'est sûr que je suis avec David aussi. Puis David, si on peut dire, c'est un peu lui mon mentor d'une certaine façon parce que David a déjà fondé des entreprises avant. Puis il y a une façon de faire tellement différente de la mienne aussi que moi, le petit côté, je pense, qui me manquait, c'est de prendre des risques aussi puis de me faire confiance. Puis lui, c'est quelqu'un qui me pousse beaucoup là-dedans, qui m'apprend à me faire confiance. Puis souvent, il me permet de m'exprimer. Fait que je dirais que ça a été mon plus gros mentor, c'est David, c'est sûr. Parce que même avant de fonder Loop, j'admirais aussi le travail qu'il avait fait. Puis je trouve qu'il a toujours fait ses entreprises avec son cœur, avec vraiment des valeurs sociales, environnementales fortes. Puis moi, ça me rejoint beaucoup. Ça fait que lui, il m'a inspiré beaucoup.
Puis ça ressemble à quoi le futur un petit peu de Loop dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits, une nouvelle expansion? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à savoir?
C'est sûr que c'est l'exportation, nouveaux produits tout le temps. Même que on se dit toujours que c'est le temps d'arrêter. Faut qu'on est comme OK, là, il y a trop de produits d'un coup, notre équipe court partout. Il faut commencer à se focaliser sur certains produits en particulier, mais on est tellement appelé par la mission que quand quelqu'un nous appelle pour nous dire qu'est-ce qu'il jette, on n'a pas le choix de faire quelque chose. On dirait que c'est tellement fort qu'on continue de développer d'autres produits. Donc, on en a plusieurs qui s'en viennent cet hiver, ce printemps. Donc, restez à l'affût. Il va y avoir d'autres produits dans d'autres catégories encore qu'on n'est pas pour le moment avec Loop. Puis ensuite, c'est sûr que c'est l'exportation. On veut aller aux États-Unis, on veut aller en Europe. Puis on veut pas juste exporter nos produits qui sont fabriqués ici. On veut développer des usines ailleurs dans le monde parce que pour nous, tu sais, le gaspillage alimentaire, c'est un enjeu global, c'est un enjeu mondial. Donc nous, on veut avoir un impact local aussi à différents endroits. Donc c'est d'avoir des usines stratégiques aux quatre coins de la planète pour être capable vraiment de sauver des aliments localement sans nécessairement devoir faire trop de transport pour ce qui viendrait comme un peu nuire à l'impact qu'on a en termes d'émissions de gaz à effet de serre qu'on évite par la revalorisation des aliments. Donc, pour nous, ça, c'est important de pas juste exporter nos produits, mais vraiment de répliquer le modèle partout à travers le monde. Et que c'est déjà ce qu'on est en train de faire. Là, on bâtit les plans d'affaires pour essayer de répliquer le modèle ailleurs.
Puis, est-ce que tu parlais tout à l'heure de la force des partenariats pour attaquer différentes lignes de produits, différentes catégories? Est-ce que tu crois que cette approche-là pourrait être similaire quant à l'exportation? Donc, littéralement, d'aller trouver des partenaires locaux dans des pays différents pour aller installer une usine, pour aller installer un point de vente dans des pays différents?
Absolument. Ouais, vraiment. En ce moment, c'est ce qu'on fait. Là, on parle avec différents partenaires parce qu'on le développe avec des partenaires. Donc, d'autres distributeurs ou grossistes qui ont des aliments en surplus localement. Donc, on est déjà en discussion avec beaucoup de partenaires potentiels. Puis pour nous, c'est la clé du succès. On veut pas tout faire nous-mêmes. Pour que ça fonctionne, faut le faire avec des acteurs locaux. Puis c'est ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment.
Mais c'est des mariages, ça. Donc, j'imagine que ça doit prendre un certain temps, bien connaître les valeurs des deux parties, leur vision long terme. Ça doit pas être un processus facile.
Ouais, non, c'est assez long. C'est sûr qu'on se rend, il y en a beaucoup là que ça fait plusieurs fois qu'on se parle. On se rencontre, c'est sûr, en Zoom pour le moment. Mais prochaine étape, ça va être qu'on aille se rencontrer en personne. C'est important. Ici, on a été chanceux. On est tombé sur des partenaires incroyables avec qui on a une très belle relation, mais on veut s'assurer qu'on fait la même chose ailleurs aussi. Donc, on prend des références aussi de gens, d'autres partenaires à eux pour s'assurer que la relation est belle puis qu'on a envie de travailler avec eux. C'est sûr qu'à la fin, c'est souvent une question de le feeling. Comme on dit, là, on le sent ou on le sent pas. Nous, on veut des gens qui ont des valeurs similaires à la nôtre puis qui ont la même vision de où ils veulent amener cette entreprise-là puis que ça soit vraiment basé sur l'élimination du gaspillage alimentaire. Là, ça, c'est notre critère numéro un.
Je terminerai. Petite question personnelle, comme je l'ai dit plus tôt, donc j'y arrive. Est-ce que tu lis un peu certaines lectures? Est-ce que la lecture t'aide dans ton travail d'entrepreneur, Julie?
C'est tellement... j'adore lire, mais c'est tellement occupé quand on est un entrepreneur qu'en ce moment, j'ai plus beaucoup le temps de lire. Ça me manque beaucoup d'ailleurs. Quand je prends une semaine de vacances, je fais pas mal juste ça, lire pendant cette semaine-là. Donc, c'est assez difficile. Moi, je suis abonnée à National Geographic, fait que je prends le temps un petit peu de temps en temps de lire au moins les nouvelles du National Geographic. Sinon, j'ai quelques romans que je retourne dedans une fois par année, tu sais, quand je prends mes vacances. Donc, souvent, je les mets sur pause, puis j'ai pas le temps de le finir. Puis là, un an plus tard, je le continue. Là, je me souviens plus du début. Ça ressemble pas mal à ça en ce moment. Mais on est aussi à un moment où on embauche une équipe. Tu sais, ça a été beaucoup sur les épaules de David puis moi depuis le début. Et là, on est rendu à un moment où on est capable d'embaucher des piliers dans l'entreprise qui peuvent prendre des départements au complet puis les gérer, tu sais, d'une meilleure façon même que nous, on pouvait le faire. Fait qu'on est vraiment contents parce que ça va nous permettre de retrouver une vie un peu, je dirais, un rythme de vie un peu plus sain parce que là, ça commence à être un peu intense.
Ben, il y a ce stade-là à franchir, hein. Donc, quand t'es pas tellement beaucoup, t'es le chef de département de tous les départements. Puis quand tu franchis ce stade-là, t'es capable de déléguer certains, peut-être, départements qui pas nécessairement te plaisent moins, mais que tu sens que ton temps pourrait être mieux investi ailleurs. Et là, c'est là que ça peut bien compléter l'équipe. Parlant de routine de travail, de temps que vous mettez à l'ouvrage, à quoi ressemble la routine de Julie le matin, avant, et pendant et après le travail?
Ben en ce moment, nous, on a un jeune bébé, donc j'ai une petite fille là de tout jeune de 8 mois, donc c'est sûr que en ce moment ma routine c'est très passer du temps avec bébé là le matin tout de suite après le travail, donc j'allaite en même temps que je fais des Zoom meetings et en même temps que ça ressemble c'est très prenant en ce moment, donc c'est sûr que c'est ça ma routine. David et moi, on a aussi une autre routine qui est d'aller se baigner, donc à l'année. Moi, on habite sur le bord d'un lac, dans le bois. Moi, je suis une amoureuse de la nature, de l'environnement. Donc, on va se baigner. Même l'hiver, on a un sauna. C'est sûr qu'on prend des saunas régulièrement, presque à chaque jour, là. Puis c'est ce qui nous permet vraiment de nous ressourcer. C'est comme ça qu'on carbure en faisant un petit peu là, un 20 minutes de sauna par jour. Mais même sans sauna, même l'hiver, là, on prend des fois, on fait un trou dans la glace, puis Il fait moins 35 dehors, puis on prend pas de sauna avant, puis on rentre dans l'eau froide. Je l'ai fait même pendant ma grossesse tout le long, puis ça m'aide à ça. Ouais, après ça, ça me réveille. Je prends pas de caféine. C'est vraiment ça ma façon de de me réveiller, puis après d'être prête à aller attaquer le travail là.
Puis je suis curieux, Julie, ça fait 5 ans maintenant que vous avez lancé l'organisation. Qu'est-ce que tu dirais à la Julie de 2016 avant de débuter?
Je dirais, fais-toi confiance, ouais, parce que j'ai, tu sais, des fois, on a l'impression quand on commence, on a un peu le syndrome de l'imposteur, on écoute les consultants, on écoute des gens autour de nous, mais finalement, tu sais, d'écouter ma petite voix intérieure, parce que je pense qu'à la fin, ça reste comme un projet que j'ai idéalisé, puis je sais qu'est-ce qui est bon pour cette entreprise-là, fait que ça a été, c'est quelque chose que des fois, j'ai écouté d'autres gens puis plutôt que ma petite voix intérieure, puis finalement, j'aurais dû écouter ma voix intérieure. Donc, c'est vraiment une question de me faire plus confiance parce que finalement, je me donnerais une petite tape dans le dos puis j'aurais été capable.
Ça va encore plus vite, hein, des fois, de littéralement faire des actions, poser des décisions, qu'ils soient bonnes ou pas, au moins on est capable d'apprendre, puis peut-être d'accélérer et d'itérer sur les observations qu'on a été capable de faire suite à ces décisions-là. Donc, je comprends très bien d'où ça vient. Puis, avant de te laisser filer, si les gens veulent en apprendre un petit peu plus sur Loop Mission, peut-être sur vos différents produits, peut-être vous avez des postes ouverts. Comment qu'on peut en apprendre plus sur votre entreprise?
Oui, c'est en nous suivant sur les réseaux Loop Mission, donc notre site web loopmission.com ou encore Instagram, Facebook. On a une série qui s'appelle Behind the Loop, qui est une série vidéo qu'on retrouve sur notre site internet puis qu'on met aussi sur nos réseaux. Donc, c'est un peu une série de tout ce qui se passe dans le behind the scene des Juloupes, donc de Loop Mission plutôt. J'ai encore le vieux réflexe d'appeler ça Juloupe, ça n'a-tu pas de bon sens? Donc, on est vraiment très transparent dans nos vidéos. On parle de tout ce qui se passe à l'interne, les bons coups, les moins bons coups. Quand on a des périodes plus difficiles, on les expose. Quand on a des bonnes nouvelles, on les expose. Donc, si on a toujours une équipe de caméras, là, ben, ouais, qui nous suit puis qui filme au réel là, qu'est-ce qui se passe au quotidien. On voit aussi des partenariats qu'on fait avec des producteurs, qu'on rencontre des producteurs alimentaires qui, là, la semaine passée, on était dans un champ de daikon pour justement un producteur qui avait des daikons en grande quantité rejetés, qui est comme un radis, qu'on va faire fermenter dans un petit projet spécial là, avec tout cru qui font des fermentations. Donc, vraiment, toujours développer comme ça des petits projets, bien, on le voit sur notre série aussi.
Ah, j'ai regardé, j'ai bien aimé, donc j'invite l'audience à aller faire un petit tour sur votre site web. Julie Poitras-Saunier, merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. C'est une belle mission que vous avez là, c'est une belle entreprise que vous avez également. Donc, félicitations à toi et David et vos différents partenaires également. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Très heureux aujourd'hui de mettre de l'avant une autre belle histoire d'une femme entrepreneur. Tranquillement mais sûrement, on arrive à bâtir une balance 50-50 sur le podcast et ça me rend grandement fier et confiant pour la suite. D'ailleurs, n'hésitez jamais à nous faire part d'invités que vous aimeriez avoir sur le podcast. On est toujours à la recherche de chefs d'entreprise pour le balado et vos suggestions sont toujours les bienvenues. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de superbes idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.